Bienvenidos a este informativo de Radio France
International. Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Ce soir avec Olia Horton de la rédaction en anglais.
Good evening.
Vous nous raconterez ce que fait une entreprise au Groenland. Elle vend de la glace, en gros, aux Émirats Arabes Unis, là où il fait très chaud, pour décorer des hôtels et non pas pour boire. Ce soir également, Lucia Mouzel de la rédaction en brésilien.
Bonne
avec le début à Londres du procès des communautés brésiliennes pour la plupart des peuples autochtones victimes de l'effondrement d'une mine à Mariana, c'était il y a 8 ans. Et Anya Stroganova de la rédaction russe.
Dobrый вечер.
Concernant l'arrestation en Thaïlande du groupe de musique russe B2, connu pour ses déclarations contre la guerre en Ukraine. Ce qui fait la une de l'actualité en France, comme dans d'autres pays européens, c'est la grogne des agriculteurs en Europe, qui dénoncent, entre autres, les accords de libre-échange, notamment celui du Mercosur. Lucia Mouzel, le Brésil en fait partie de cet accord. Comment voit-on là-bas ces manifestations, notamment le rejet des agriculteurs européens de ce Mercosur?
Comme on dit au Brésil, c'était la douche froide, puisqu'il y a très peu, il y avait un espoir de le signer. Là, au mois de février, les diplomates brésiliens et espagnols qui assuraient, l'Espagne assurait la présidence de l'Union européenne jusqu'au 31 décembre, ils s'étaient beaucoup investis pour trouver des compromis au deuxième semestre de 2023. Donc, à ces jours, la presse brésilienne porte un regard assez pessimiste sur l'avenir du traité. Dans l'immédiat, on y voit des titres comme « Les manifestations des agriculteurs ont enterré l'accord ». Les médias soulignent le fait que le Brésil soit directement visé par les critiques ici, et ça fait mal. Mais si on regarde du côté des diplomates, des experts qui suivent de près ces négociations, qui durent quand même plus de 20 ans, le verre reste à moitié plein. On souligne que ce n'est pas la France qui négocie le traité, mais la Commission européenne.
Alors justement, des responsables de Bruxelles font savoir que les conditions ne sont plus réunies pour une nouvelle tournée de négociations.
C'est exact, mais des pays importants de l'Europe, dont l'Allemagne, l'Espagne elle-même, restent largement favorables à l'accord. Dans ce cas, selon ces analystes brésiliens, il resterait à savoir si le président français arrivera à calmer les jeux ici, en interne, jusqu'à la fin de l'année par exemple, en sorte que l'accord puisse aboutir vers la fin 2024. Car pour le Brésil et notamment l'agrobusiness brésilien, ces traités est très important. Il ouvre des nouvelles perspectives de marché, aussi bien qu'il est attendu avec impatience ici par des industriels européens désireux de mieux pénétrer dans les pays sud-américains en plein développement. L'accord envisage de finir avec plus de 90% des tarifs de douane entre l'Union européenne et le Mercosur pour un marché de plus de 780 millions de consommateurs des deux côtés de l'Atlantique. C'est donc énorme. Mais je vous rappelle que dans le texte, il y a des quotas d'importation à respecter. Dans le cas de la viande, par exemple, elle serait de 100 000 tonnes supplémentaires importées ici par an. C'est très marginal, par exemple, si on regarde l'ensemble de 40 millions de tonnes de viande qui sont consommées tous les ans dans l'ensemble de l'Union européenne.
Voilà donc pour le Brésil. Anya Stroganova, comment ces actions des agriculteurs européens sont perçues en Russie cette fois ?
La propagande russe se réjouit de la grogne des agriculteurs en Europe. La colère, les protestations, le rejet des normes européennes sont des sujets particulièrement chers au Kremlin. Car ils permettent de dire que tout va mal en Occident et en particulier en Union européenne. En France, les agriculteurs préparent le siège de Paris pour affamer les habitants de la ville, titre par exemple la chaîne officielle russe Rassia Adin. Je vous propose d'écouter un extrait de ce GT russe.
По Франции бастующие фермеры прорвались через кордоны полиции, пошли в атаку. Аграрии намерены взять город в осаду.
Qu'est-ce qui est dit par cette journaliste?
Donc elle explique qu'en France, les agriculteurs en grève ont franchi les cordons de police et sont passés à l'attaque. Les agriculteurs ont l'intention d'assiéger la ville, de bloquer les approvisionnements alimentaires et d'affamer les Parisiens. Il n'y a pas assez de produits alimentaires dans des magasins en France, rajoute-t-elle. La propagande exploite également le sujet des enfants, des agriculteurs français qui manifestent.
Écoutons-la encore.
Страсбурге на востоке Франции на демонстрацию выехали дети фермеров на мини-тракторах под лозунгами «Завтра вас кормим будем мы».
Cette fois-ci, on est à Strasbourg où les enfants des agriculteurs sont venus manifester avec leurs mini-tracteurs munis des slogans « c'est à nous de vous nourrir demain ». Et sur ce fond, nous explique le présentateur, on voit circuler des images de lycéens qui nourrissent les animaux et ratissent le foin pendant que leurs parents manifestent. Entendez donc, tout va tellement mal en France que les enfants sont exploités. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, expliquait de son côté que l'Union européenne tentait de dissimuler l'ampleur des problèmes, ce qui serait beaucoup plus grave selon la télé russe. Et ces déclarations ont été largement reprises par la propagande.
Reste à savoir si les médias russes parlent maintenant du fait que les choses rentrent dans l'ordre, puisque les agriculteurs auraient finalement obtenu un certain nombre de choses de la part des autorités publiques. Lucia, je reviens vers vous. Est-ce que l'industrie agroalimentaire brésilienne est réceptive à la question de l'environnement, à la production durable des aliments, puisque c'est là aussi un des arguments et une des revendications des agriculteurs qui disent on nous demande trop de choses pour verdir nos productions et c'est très compliqué pour nous.
Exactement. Je vous dirais oui et non, car si nous prenons l'échelle globale de la production brésilienne, le chemin à faire est encore énorme, à commencer par la fin de la déforestation, puisque l'agriculture en est la principale cause au Brésil. Mais l'agriculture dite d'exportation a déjà ouvert ses yeux depuis un moment. Elle sait très bien que si elle continue de produire sur des terres déforestées ou si elle insiste sur des pesticides interdits dans l'Europe, elle aura de moins en moins de marchés à l'international. Les principaux abattoirs, par exemple, sont tous rassurés de la traçabilité de leur viande. Mais le problème au Brésil, c'est que la chaîne est très vaste, les champs agricoles gigantesques, une raison pour laquelle, pour l'instant, on a du mal à contrôler cette chaîne complètement. Aussi, il est important de se rappeler que la plupart de la filière de la viande brésilienne reste au Brésil. Le marché interne consomme plus de 75% de la production nationale.
Est-ce qu'on peut dire que la viande brésilienne exportée en Europe et de meilleure qualité que celle qui reste donc au Brésil?
Moi, en tant que Brésilienne, je dois dire malheureusement oui, on peut dire ça. Les producteurs brésiliens sont beaucoup moins rigoureux quand il s'agit du marché intérieur, car déjà les normes en vigueur là-bas sont moins exigeantes qu'en Europe, que ce soit pour la santé ou l'environnement. Le Congrès vient d'ailleurs de relâcher des règles concernant l'usage de pesticides. Du coup, force est de constater que malheureusement, les consommateurs brésiliens, eux, sont loin d'avoir des produits aussi sains qu'ici. Il n'y a pas longtemps, j'avais justement discuté de ces sujets avec un expert brésilien, Lisandro Inaca, qui est agronome et coordinateur de la chaîne de production de bœuf durable au sein du très respecté Institut Imaflora. Je vous propose d'en écouter un extrait.
A gente tem uma menor parte que vai para o mercado externo. E dentro dessa menor parte vai para o mercado externo, a menor parte tem controle de rastreabilidade.
Une minorité donc de la production par l'export, et parmi cette partie-là, une parcelle encore plus petite est vendue à l'Europe avec des rigoureux contrôles, des certifications qui sont exigées ici. Mais en ce qui concerne le marché intérieur brésilien, la traçabilité du bœuf n'existe presque pas. Seulement des épiceries de luxe la proposent, et encore d'une façon qui est très limitée.
Oli Horton, revenons à ce qui s'est passé ces derniers jours en Europe. Comment est-ce que cette grogne a été accueillie? Alors non pas en Europe, en Grande-Bretagne, puisqu'il y a eu le Brexit, mais qu'est-ce qu'on en a pensé là-bas?
Alors, les agriculteurs britanniques suivent les actions des Français et leurs voisins avec beaucoup d'intérêt. Et certains d'entre eux réfléchissent même à lancer leur propre manifestation. Voici l'agriculteur gallois Gareth Wynne-Jones qui affirme qu'ils en ont marre de la politique. Il répondait aux questions sur la chaîne de télévision GB News hier soir.
We are part of the solution, and you know what? The general public are behind a lot of these farmers' protests. So I think government in the UK
need to listen.
Non. Il dit qu'ils sont effectivement inspirés par les manifestations en Europe. Et il dit que les agriculteurs font partie de la solution. Ils sont le parti intégral des solutions quant aux stratégies économiques des pays. Il signale aussi qu'il y a un soutien grandissant du public publique du côté des agriculteurs. Il prévient le gouvernement du Royaume-Uni. Il ferait mieux d'écouter et prendre au sérieux leurs revendications. Autrement dit, ne pas mordre la main qui tend la nourriture. Alors, ils sont de plus en plus frustrés de leur côté, de préoccupés par les inégalités. Il y a beaucoup d'entre eux qui recevoir des prix qui sont considérés comme injustes pour leurs produits, alors que les détaillants, les supermarchés affichent des bénéfices records. Il y a même un mouvement qui s'est lancé en ligne ces derniers jours via les réseaux sociaux qui s'appelle No Farmers, No Food, pas de fermiers, pas de nourriture. Et c'était créé par un fils d'un fermier, James Melville.
Quelles sont les actions sur les terrains? Que font les paysans grands-bretons?
De leur côté, ils ont fait une petite protestation la semaine dernière. Il y avait ceux du secteur fruits et légumes qui se présentaient devant le Parlement à Londres. Et en fait, ils souhaitent que les 6 grandes chaînes supermarchés du pays respectent les accords, notamment en achetant les quantités convenues et en payant le montant convenu à temps sans exception. Et donc, ils sont aussi confrontés, ils disent, par les paiements de soutien qui sont beaucoup plus réduits en raison d'un changement de politique environnementale qui, selon eux, menace leurs moyens. Et puis, il y a même la présidente du syndicat national des fermiers qui a déclaré que les agriculteurs éprouvent une grande sympathie parce qu'ils sont tous européens au pas, confrontés à l'incertitude et des énormes défis qui sont similaires.
J'y faisais allusion tout à l'heure. Le Royaume-Uni a donc quitté l'Union européenne en janvier 2021, le Brexit. Où en sont les Britanniques aujourd'hui quant à leur accord de libre-échange?
Alors, ce divorce administratif a été acté et officiellement depuis 2021, donc ça fait 3 ans. Alors, il y a toujours les retards dans l'application des procédures et les règles. Par exemple, des accords commerciaux, ça existe toujours. Ils ont continué certains accords entre le Royaume-Uni et l'Europe, mais ça implique maintenant beaucoup plus de paperasse, d'administration. Et d'ailleurs, même cette semaine, les contrôles douaniers pour les produits frais alimentaires en provenance de l'Union européenne viennent tout juste d'être activés au Royaume-Uni. Et donc, à partir de mercredi, les entreprises devront présenter les certificats d'importation sanitaire. Certaines marchandises en provenance de l'Irlande du Nord seront également soumises à des contrôles. Et des changements annoncés coûteront aux entreprises britanniques environ 386 millions d'euros par an. Donc, il y a une inquiétude aussi. Donc, il y a le coût, mais aussi, est-ce qu'il y a assez de douaniers pour contrôler tout ça?
Plus globalement, le Brexit a été vendu aux Britanniques par les politiques avec le concept qu'une fois libéré du joug bureaucratique de l'Europe, il serait libre de négocier des accords avantageux dans le monde entier. Est-ce que finalement c'est ce qui s'est passé?
En fait, le Royaume-Uni a beaucoup de mal à faire décoller ce changement radical qui était promis et certaines négociations sont au point mort. Alors, c'est un travail évidemment de longue haleine. Depuis 2020, le Royaume-Uni a signé des petits traités avec le Japon, avec l'Australie, Singapour, Norvège, Islande et même la Nouvelle-Zélande, mais ça ne représente pas des grands marchés. Il y a un autre partenariat qui est en cours, c'est une alliance de 11 nations du Pacifique. Ça devrait être finalisé qu'en cours de l'année.
Et du côté du Canada?
Alors, cette année, ils ont refait encore des réunions tout récemment, au début de mois, mais ils ont échoué à trouver un accord final. Ça concerne principalement l'importation du fromage au Canada et dans l'autre sens, l'importation du bœuf en Angleterre. Ces deux marchés très, très importants. Ils ont mis un accord intérimaire en place en 2021. Ça préserve à peu près les mêmes conditions qui étaient actées sous le CETA, les accords économiques et commerciaux globaux, qui est entre le Canada et l'Union européenne. Mais évidemment, il y a une expiration pour ces différents accords. Mmh. Et ça devrait être remis sur le marché. Alors, le Canada fait énormément de pression pour un meilleur accès au Royaume-Uni. Et pour l'instant, les négociations n'avancent pas.
Notamment pour ces productions de bœuf et de porc. Pour ce qui est des États-Unis maintenant?
Alors, les États-Unis, il y a seulement une déclaration atlantique qui a été signée. Mais le Premier ministre britannique a déclaré en juin 2023 qu'un accord de libre-échange n'était pas tout à fait une priorité, mais c'était
en cours, mais bon, ça avance pas très vite. Et puis de l'autre côté, il y a aussi l'Inde, une ancienne colonie de Royaume-Uni, qui a un partenaire commercial clé quand même. Leur commerce mutuel était estimé à 26 milliards d'euros en 2019. Ils espèrent doubler ce montant d'ici 2030. Mais les deux pays sont à leur 14e tour de négociation, toujours pas d'accord.
Ils n'y arrivent pas. Alors que les Anglais ont tout intérêt à exporter, puisque l'Inde, on va le rappeler, hein, c'est le premier pays au monde en termes de population, devant la Chine. Donc
tout
ça fait des bouches à nourrir. Agnès Roganova, justement, ces accords de libre-échange, la Russie en a avec quel autre pays ?
La Russie, en fait, fait partie de l'Union économique eurasiatique. Cette union est venue remplacer la communauté économique eurasiatique qui existait jusqu'en 2014. Et elle comprend 5 membres, donc la Russie, le Kazakhstan, le Bélarus, l'Arménie et le Kyrgyzstan. Et elle se présente aujourd'hui comme l'exemple le plus abouti d'intégration économique au sein de l'espace post-soviétique, selon le chercheur expert de la Russie, Julien Vercueil. Depuis 2015, l'Union économique eurasiatique a signé des accords de libre-échange avec le Vietnam, le Singapour, la Serbie.
Et puis l'Iran, il y a ça un mois.
Oui, c'est ça. Le 25 décembre dernier, l'Iran a signé un accord de libre-échange avec les pays membres de l'Union économique eurasiatique à Saint-Pétersbourg, en présence de Vladimir Poutine. Cette signature est intervenue donc sur fond des sanctions économiques de plus en plus dures à l'encontre de Moscou et de Téhéran. Et au même moment, les autorités russes ont annoncé l'existence d'un projet d'accord similaire avec l'Égypte à un stade très avancé.
Voilà pour ce tour du monde, justement paysan, sur Radio France International. Vous écoutez Accent du Monde. Accent du Monde. Cette semaine, à Londres, se tient le plus grand procès environnemental au monde. Justement, l'action est menée par les survivants et les familles des victimes de l'effondrement d'une mine à Mariana, au Brésil. C'était il y a 8 ans et 19 personnes avaient alors trouvé la mort. Alors, Lucien Mouzel, de la rédaction brésilienne, pourquoi est-ce que la justice anglaise est en charge de ce procès?
Alors, la mine de San Marco était administrée par la compagnie brésilienne Vale et la géante anglo-australienne BHP, la plus grande compagnie minière au monde. En 2022, la justice anglaise s'est estimée compétente pour juger les responsabilités de BHP, mais aussi de Vale dans ces désastres qui a eu lieu en 2015 dans l'État brésilien de Minas Gerais. Elle se charge donc d'une partie du procès, l'autre est jugé bien sûr par la justice brésilienne.
Alors, qu'est-ce qui s'était passé à l'époque?
Exactement. Un des barrages de l'usine s'est effondré. Les œufs toxiques ont été renversés par 700 km autour. Une quarantaine de villes et des villages ont été ainsi détruites et 19 personnes sont donc mortes, dont l'enfant de 7 ans de cette dame, Giovanna da Silva, qui est venue à Londres à l'occasion. Notre correspondante Yula Rocha l'a rencontrée.
C'est un valeur qui paye la vie d'un fils. Porque você sofre todos os dias que você acorda, seus dias cinzentos.
Alors,
você
qu'est-ce
vê uma
que cette mère de victime a raconté à votre envoyé spécial?
Elle est très émue, elle dit qu'il n'y a pas d'argent qui payera la vie d'un enfant, car elle en souffre tous les jours, elle regarde les autres enfants, elle pense, mon fils, il aurait pu être comme lui aujourd'hui. Elle demande à Dieu pourquoi ça lui est arrivé, et la réponse qu'elle trouve, c'est la cupidité des hommes d'affaires, elle voit que l'argent parle toujours le plus fort, même au prix de la vie des autres.
La justice anglaise, il faut savoir que depuis cette catastrophe, hein, toutes les familles des victimes n'ont pas encore été indemnisées et que personne n'a été arrêté.
C'est hallucinant. Et certes, les entreprises ont déjà dépensé plus de 6 milliards d'euros en indemnités destinées à quelques 70 000 victimes et municipalités concernées. Mais ce chiffre reste largement insuffisant. Les associations de victimes réclament 43 milliards d'euros, rien qu'à ce procès à Londres. C'est pour ça que l'ouverture des audiences cette semaine a été marquée par des manifestations, notamment des indigènes Krenak qui habitent la région et ont été durement impactés par cette tragédie. Plus de 50 Brésiliens étaient présents au tribunal à la capitale britannique, dont des paysans, des maires d'une quinzaine de villes, ainsi que des procureurs de ces localités. Le représentant indigène Marcelo Krenak regrette que le Rio Doce, c'est la rivière à proximité du site de la mine, reste contaminé par des métaux lourds, ainsi que son sol et tout ce qu'il y a autour.
Desde aquele dia onde assassinaram o nosso rio, o nosso povo sofre todos os dias.
Il parle d'assassinat.
Exactement, il dit que depuis ce jour-là, quand notre rivière a été assassinée, dit-il, notre peuple souffre car notre rivière, elle est là, mais nous ne pouvons pas nous connecter à elle. Pour le peuple Krenak, la rivière, c'est la vie. Il espère donc que la justice leur rende au moins une petite compensation pour cette perte.
Or, la justice anglaise vient de repousser encore plus le délai, l'audience. Du coup, le procès n'aboutirait qu'en 2025, c'est-à-dire l'année prochaine.
Oui, le procès débutera bien en octobre prochain comme prévu, mais la juge en charge a accepté la demande des avocats de Val qui réclamaient 3 semaines supplémentaires pour les auditions de témoins, spécialistes. En janvier, la justice de Minas Gerais au Brésil a condamné Samarco, Val et BHP à payer 47 milliards de reais aux victimes, soit environ 10 milliards d'euros. Mais la concrétisation de cette décision risque de prendre encore du temps. Du côté de la défense des victimes, on retrouve rien qu'un ancien ministre de la justice du Brésil, José Eduardo Cardoso. Il était à Londres lui aussi.
Nós temos aqui na ação da Inglaterra a alternativa mais rápida e justa para tentar resolver o problema.
Il espère que l'action en Angleterre représente l'alternative la plus rapide et la plus juste pour essayer de trouver une solution à un problème qui traîne depuis des années à cause de l'inertie, selon lui, des compagnies minières, grâce à des recours judiciaires interminables et surtout dans le sens d'éviter que cela ne se répète, car si l'impunité règne, la prévention de catastrophes ne sera toujours pas la priorité des grandes entreprises, et notamment celles qui exercent là, loin, dans des pays comme le Brésil.
Et on aura bien évidemment l'occasion de reparler de ce procès, hein, puisqu'il va durer encore un certain temps. Lucie Musel de la rédaction en brésilien de Radio France Internationale. Voilà quelques semaines, lors de la COP28, le sommet mondial sur le climat tenu aux Émirats Arabes Unis, des envoyés spéciaux de RFI avaient remarqué, dans des restaurants ou dans des bars à Dubaï, des élégantes sculptures de glace. Olia Horton, de la rédaction anglophone. Derrière ce coup d'éclat décoratif, il y a un marché très lucratif pour le Groenland, ce petit territoire qui appartient au Danemark.
Nous sommes d'accord qu'il n'y a pas beaucoup de glace en abondance dans le pays désertique du Moyen-Orient. Alors, quelle était l'origine de cette glace et pourquoi? Alors, ma consoeur Isabelle Martinetti était très intriguée par ce concept et elle a découvert qu'il y a une société spécialisée dans ce marché qui s'appelle Arctic Ice, qui récupère la glace qui se détache des icebergs, eux-mêmes détachés d'anciens glaciers plus grands, pour les envoyer par bateau vers les Émirats via le Danemark. Alors, selon le site internet de cette société, la glace est la plus pure au monde et provient des glaciers naturels gelés depuis plus de 100 000 ans. Alors, la glace n'a pas été en contact avec aucun sol ni contaminée par les polluants produits par les activités humaines.
Et l'utilisation de cette source d'eau douce au Groenland est une pratique courante.
Oui, plusieurs entreprises ont fait leur métier, comme Arctic Ice, qui a exporté 20 tonnes de glace l'année dernière. Alors, ma collègue elle a pu parler avec un scientifique, Heidi Sylvestre, qui fait partie du programme international de surveillance de l'évaluation de l'Arctique, pour qui cette pratique, évidemment, est assez dérangeante. Voici ce qu'elle a dit.
In Greenland, using ice from the ice sheets, from the icebergs, is something that is quite traditional. It's cultural to use this source of.
Alors, elle dit que c'est en fait, c'est culturel d'utiliser cette glace, mais plutôt, on va dire, de manière locale. On ne va pas envoyer à 7000 km, c'est quand même un peu excessif. Mais elle dit que c'est très prisé parce que cette glace, en étant tellement pure, ça reste très longtemps, ça fond très lentement et ça claque dans la boisson. C'est très joli à voir. Donc, c'est pour ça, Dubaï, ils veulent ça pour leur bar un peu chic. Et même les sommeliers de l'eau décernent souvent les meilleures médailles à cette eau qui provient des glaciers. Mais évidemment, ce n'est pas très écolo de l'envoyer aussi loin. Mais la société elle-même s'efforce de compenser autant que possible son empreinte carbone. Ils disent qu'ils insistent sur un engagement à devenir totalement neutre en carbone grâce à des nouvelles techniques de stockage de carbone. Et en plus, ils utilisent des containers de cargo qui repartent de Groenland vides.
La société Arctic Ice se défend de cette pratique.
Tout à fait. Ils disent qu'il faut trouver des nouveaux revenus, les sources de revenus pour le Groenland, qui est fortement dépendant évidemment financièrement sur le Danemark. Alors, pour trouver cette indépendance et trouver autre chose que le tourisme ou vendre du poisson, ils vendent de la glace pour être un peu plus indépendants. Et même s'ils disent que c'est une transition verte, à leur manière, ça dérange quand même pas mal de personnes.
C'était Olia Horton de la rédaction en anglais de RFI. En Russie, il y a cette affaire digne d'un thriller autour des membres du groupe de rock BI2. Ils sont détenus pendant plus d'une semaine en Thaïlande. Moscou essaye d'obtenir leur expulsion vers la Russie en mettant la pression sur les autorités. Mais Anya Strogalova, tout cela en vain.
Oui Philippe, soulagement, tel était hier le 1er février, le premier mot de tous ceux qui étaient impliqués dans cette affaire, car les soutiens du groupe B2, ouvertement opposés à la guerre en Ukraine, ont mobilisé durant 7 semaines des diplomates israéliens, thaïlandais, américains et européens. Et heureusement, ils ont eu gain de cause. Les 6 membres du groupe sont arrivés jeudi en Israël, y compris ceux qui n'avaient que des passeports russes.
Alors ce qu'il faut savoir pour bien comprendre, c'est que 4 musiciens de B2 possèdent la nationalité israélienne et australienne, en plus de la citoyenneté russe. C'est ça qui leur a sauvé la mise.
Oui, en plus, ce qui est compliqué, c'est qu'ils sont tous nés, pas tous, mais 2 d'entre eux sont nés en Biélorussie. Donc, il y a une multitude de passeports et d'origine. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est que le 24 janvier, B2 devait se produire à Phuket, en Thaïlande. Donc, c'est une station balnéaire où vit une grande communauté russophone. Le groupe a été arrêté le même jour sous prétexte qu'il disposait de simples visas touristiques et non de visas de travail. Au lieu de leur faire payer des amendes de moins de 100 dollars chacun, la police thaïlandaise les a placés dans un centre de rétention, d'abord à Phuket, puis à Bangkok. À Bangkok, c'était vraiment horrible pour eux quand ils se sont retrouvés dans une pièce de 100 mètres carrés où s'entassaient 80 personnes et ils devaient dormir à tour de rôle.
Et puis, le chanteur Egor Bortnik, connu sous le nom de Leva B2, a quitté Bangkok en premier, c'était le 30 janvier. Il y a 3-4 jours.
C'est ça, lui, il est arrivé un peu avant les autres et pour lui, cela ne fait pas de doute. Il s'agit bien d'une commande du consulat russe en Thaïlande. C'est ce qu'il a annoncé aux journalistes en arrivant à l'aéroport de Tel Aviv.
Нам все говорили о том, что это русский след, что русское консульство.
Donc là, il explique ce qui lui est arrivé.
Oui, c'est ça. Il explique que c'est le consulat russe qui a commandité leur arrestation pour obtenir leur expulsion vers la Russie pour leurs propos anti-guerre. Donc le journaliste lui demande est-ce que ça a été étonnant pour eux. Il explique que... ils auraient pu éviter cette situation, mais il y avait des choses administratives qui ne dépendaient pas d'eux. Ils remercient l'Israël qui a aidé non seulement les citoyens israéliens, mais aussi les citoyens russes qui n'avaient pas d'autres passeports.
Hier, en fin de journée, ces musiciens ont été reçus en grande pompe officiellement par le ministre israélien des Affaires étrangères.
C'est ça, et le ministre en personne a fait une déclaration en disant que l'État d'Israël est le seul pays au monde qui s'efforce de ne laisser personne derrière. Notre travail consiste à veiller à la protection et à la sécurité des citoyens israéliens partout dans le monde, et nous y sommes parvenus, a-t-il déclaré. Dimitri Goudkov, opposant russe exilé à Chypre et ancien député de la Douma, a raconté les coulisses de cette libération à la chaîne de télé TV Rain.
Alors, quelles sont ces coulisses ?
Donc, il explique qu'il s'agit de la coopération d'un grand nombre de gens. C'était une véritable opération spéciale, dit-il. Où il y avait des diplomates de partout. Et il dit aussi que c'était très compliqué non seulement d'obtenir tous les accords, mais aussi d'organiser le départ, car il n'y avait plus de place dans l'avion qui portait de Bangkok à Tel Aviv.
Venons-en à ce que disent les autorités russes. Moscou nie en bloc son implication dans cette affaire.
Oui, ce qui n'est pas étonnant, parce que c'est souvent le cas avec le ministère des Affaires étrangères russe. Cette fois-ci, il dénonce les publications manipulatives et mensongère des médias indépendants et des opposants politiques. Le ministère a qualifié de fake les allégations concernant son implication dans la détention de musiciens. Et la porte-parole de la diplomatie russe a déclaré à la chaîne Moscovite 360 qu'il s'agissait de simples problèmes administratifs. On l'écoute.
относительно музыкантов, которые в Таиланде
попали, Мария Закарова
в неприятную историю. Дont on a parlé dans la première partie de l'émission aussi, donc il dit qu'il ne s'agit que des problèmes administratifs de viol, de violation des lois locales en matière d'immigration.
Voilà donc pour ce qui est arrivé à ce groupe russe B2. C'était Anya Stroganova de la rédaction russe de RFI. C'était Accent du Monde, à retrouver bien évidemment sur le site internet de Radio France Internationale et sur l'application téléphone.